Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartré. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Elle, art subtil de s'en foutre de Mark Manson, est un essai de développement personnel au ton direct et volontairement à contre-courant. Plutôt que de promettre un bonheur permanent, le livre critique la pression moderne à être toujours plus épanoui, plus performant et plus positif. Manson défend une idée simple et exigeante, à la fois on ne peut pas tout contrôler ni tout réussir. Et chercher à tout prix à se sentir bien devient souvent une source de frustration. Elle, en jeu, est donc de choisir avec discernement ce qui mérite vraiment notre énergie et de d'accepter lucidement le reste, à travers des exemples. Des anecdotes et une approche pragmatique, il invite le lecteur à revoir ses critères de réussite, à se confronter à ses peurs et à prendre la responsabilité de ses choix. Le but n'est pas l'indifférence, mais une forme de détachement sélectif moins subir à l'agitation inutile. Et se recentrer sur des valeurs solides qui rendent la vie plus cohérente et supportable. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le détachement sélectif comme compétence de vie. Le livre popularise une idée souvent mal comprise, s'en foutre, ne signifie pas ne plus rien ressentir ni se désintéresser des autres. Il s'agit plutôt d'apprendre à choisir ses combats, car notre attention et notre énergie sont limitées. Manson insiste sur le fait que se soucier de tout conduit à l'épuisement et à l'anxiété, tandis que se soucier de quelque chose d'essentiel rend plus stable et plus efficace. Cette sélection N n'est pas un repli cynique, mais une stratégie de clarté, définir ce qui compte vraiment, puis accepter que le reste soit imparfait. Inconfortable ou hors de notre contrôle, le détachement devient ainsi une forme de maturité psychologique. Il permet de moins réactiver l'ego sur chaque critique, échec ou comparaison sociale, et de réduire la dépendance aux validations extérieures. En pratique, cette approche pousse à distinguer les problèmes réellement importants de ceux qui sont surtout des signaux de statut, d'eux d'image ou de peur. Le lecteur est invité à réévaluer ses priorités et à se demander pourquoi il est prêt à faire des efforts, et aussi quels inconforts il accepte de porter. Deuxièmement, le bonheur ne se fabrique pas sans problème. Manson s'oppose à l'idée répandue que la vie heureuse serait une vie sans difficulté. Il soutient au contraire que les problèmes sont inévitables et que la qualité de thune dépend largement des problèmes que l'on choisit d'affronter. Chercher à éliminer toute souffrance ou toute incertitude conduit à une impasse, on finit par souffrir de souffrir. En interprétant le malaise comme une anomalie ou une preuve d'échec personnel, le livre invite à normaliser l'inconfort, à reconnaître que la frustration et l'anxiété ou la tristesse font partie du parcours humain et qu'elles peuvent même devenir des guides sur ce qui compte, plutôt que de promettre une transformation magique. L'auteur propose un réalisme orienté action, identifier les sources de tension, accepter ce qui ne peut pas être change et investir son effort dans ce qui peut elle être. Cette posture replace le développement personnel du code de la responsabilité et de l'endurance, plus que du code de excitation motivationnelle. L'effet recherche est une sérénité plus robuste, construite sur l'acceptation et non sur l'illusion de contrôle total. Troisièmement, valeur solide contre objectif superficiel, un axe central du livre consiste à distinguer ce qui a de la valeur de ce qui en a qu'en apparence. Manson critique les objectifs fondés sur l'image, la comparaison ou la récompense immédiate, car ils créent une dépendance à des résultats instables. Il encourage plutôt à choisir des valeurs qui restent valables même quand on échoue ou quand personne ne regarde intégrité, honnêteté, engagement, apprentissage, courage. Cette orientation change la façon d'évaluer sa vie, on ne mesure plus sa réussite seulement à des performances visibles, mais à la cohérence entre ses actes et ses principes. Le livre met aussi en garde contre la culture de l'exceptionnalité, qui pousse à vouloir être spécial à tout prix. En remettant l'accent sur des valeurs choisies, le lecteur peut définir des critères personnels de réussite, moins soumis aux injonctions sociales. Cela ne supprime pas l'ambition, mais la rend plus saine, elle et fort, devient une expression de ce que l'on juge important, et non une fuite du sentiment de insuffisance. Dans cette logique, il est préférable d'assumer ses limites et ses responsabilités plutôt que de poursuivre des idéaux qui ne correspondent pas à soi. Quatrièmement, faute et responsabilité reprendre la main sans culpabilité. Le livre propose une distinction utile entre faute et responsabilité. Quelque chose peut ne pas être de notre faute, mais rester de notre responsabilité à gérer. Cette nuance déplace le lecteur d'une posture de victimisation ou de rancœur vers une posture de d'agentivité que puis-je faire maintenant, même si la situation est injuste ou subie. Manson ne présente pas cette idée comme une injonction à se blâmer, mais comme un moyen de récupérer du pouvoir d'action. Prendre ses responsabilités, c'est accepter que nos réactions, nos choix et nos habitudes comptent, et que personne ne viendra sauver notre vie à notre place. Cette approche vise aussi à désamorcer la honte reconnaître une erreur, devient une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une condamnation de soi. Le lecteur est amené à observer comment il attribue les causes de ses problèmes et comment il peut changer ses comportements, ses limites et ses engagements. Au lieu de chercher des explications qui rassurent l'ego, le livre invite à chercher des décisions qui améliorent la réalité. Cette responsabilité lucide devient un outil de stabilité émotionnelle et de progression durable. En dernier lieu, honnêteté radicale face aux peurs et à l'ego. Manson défend une attitude de franchise envers soi-même, à l'opposé des discours qui encouragent à se raconter des histoires confortables. Il insiste sur le fait que l'ego peut transformer chaque difficulté en menace identitaire et pousser à éviter, rationaliser ou se comparer. Or, se construire une vie plus ancrée demande de regarder en face ses peurs, ses défauts et ses incertitudes. Le livre souligne que la confiance ne vient pas de l'auto-persuasion permanente, mais d'une relation plus saine à l'échec et à l'inconfort. Accepter d'être imparfait, d'être critique ou de ne pas réussir immédiatement permet de rester en mouvement sans s'effondrer psychologiquement. Cette honnêteté radicale implique aussi de reconnaître ce que l'on contrôle et ce que l'on ne contrôle pas et de renoncer à certaines attentes irréalisables. Le ton volontairement cru sert ce propos casser les illusions, réduire les faux espoirs et ramener le lecteur à des engagements concrets. En fin de compte, l'objectif est une forme de courage quotidien à agir selon ses valeurs, même quand cela implique de l'incertitude, des renoncements et des efforts. C'est une approche moins brillante en surface, mais plus stable dans la durée. En conclusion, l'art subtil de s'en foutre s'adresse surtout aux lecteurs fatigués des promesses de bonheur facile et des recettes trop optimistes. Il conviendra à ceux qui veulent une approche pragmatique, parfois provocatrice, pour remettre de l'ordre dans leurs priorités. Diminuer la charge mentale et mieux tolérer un inconfort normal de la vie. Le bénéfice principal est une clarté plus exigeante, choisir des valeurs, accepter des limites. Et agir avec responsabilité plutôt que chercher à tout prix à l'approbation ou la sensation constante de bien-être, sur le plan pratique. Le livre aide à filtrer les préoccupations inutiles, à relativiser la comparaison sociale et à transformer une partie de l'anxiété en décisions plus cohérentes. Sur le plan intellectuel, il propose une critique accessible de la pensée positive naïve et rappelle que le sens et la satisfaction émergent souvent de l'effort, de la discipline et de l'acceptation des difficultés. Ce qui le distingue dans sa catégorie est moins une théorie révolutionnaire qu'un positionnement, un développement personnel de parler vrai, qui valorise la solidité psychologique plutôt que l'euphorie. Certains lecteurs pourront le trouver répétitif ou trop rude dans le style. Mais ceux qui cherchent un cadre simple pour choisir ce qui compte vraiment y trouveront une lecture stimulante et clarifiante. Si vous souhaitez soutenir Mark Manson, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.